Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toi, chère auditeurice, et bienvenue dans cet épisode bonus de Yes, le podcast des Warriors. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que tu vas écouter. Nous l'avons enregistré en public à Marseille, à l'Écho Nature, un tiers-lieu marseillais qui nous accueille généreusement, et merci à eux. On va parler de sextech et d'éducation sexuelle avec Alicia, qui a créé la boutique Lita, une boutique aphrodisiaque à Marseille. Cet épisode est produit en collaboration avec le média Culot. Marie-Alix et Jess, qui ont cofondé ce média, sont là aujourd'hui, et je vais donc co-animer avec Marie-Alix.
Enchantée.
Est-ce que tu peux commencer par nous présenter Culot ?
Culot, qu'on a cofondé avec Jess, qui est à la caméra. Donc c'est un média qui parle de genre et de sexualité. Et en fait, le point de départ, même si aujourd'hui on parle beaucoup plus de toute thématique féministe et inclusive, mais à la base on avait décidé de faire un média sur les questions de sexualité, justement parce que bah, il y avait pas d'infos, quoi. Et moi, je me souviens que j'avais cherché, je me disais, je parle 3 langues et demie, je suis journaliste et je cherche des infos et j'en trouve hop. Enfin, et j'étais vraiment à 4 pattes sous la Fnac en me disant, là, il y a peut-être un livre sur le cul qui est intéressant. Et en fait, il n'y en avait pas, quoi. Enfin, ou alors, il était vraiment caché. Et du coup, donc, à la base, on avait lancé ce média sur ces questions-là. Depuis, en fait, on suit aussi tout ce qui est thématique féministe, etc. Le débat s'est énormément ouvert et élargi. Donc on suit tout le débat dans ce sens-là. Alicia, donc t'as ouvert une boutique à la Plaine sur Marseille qui s'appelle Lita Boutique, qui est une boutique aphrodisiaque, féministe, inclusive, où en fait on trouve aussi bien des sextoys que des culottes menstruelles, que des binders, je pense. Enfin, qu'il y a vraiment cette démarche très, très inclusive. Est-ce que, déjà, première question, qu'est-ce que tu te dis le matin ou qu'est-ce que tu ressens le matin en allant au travail ?
C'est un plaisir. C'est. Je suis quand même fière de ce que j'ai créé et c'est vrai que l'échange avec les clients, c'est assez nourrissant, c'est vraiment c'est très beau, donc ça va, je suis plutôt bien.
Et du coup, Alicia, qu'est-ce qui t'a poussée à créer ce sex shop?
Je suis quelqu'un assez impulsif et je me suis installée à Marseille. Et je cherchais des choses pour moi et je voyais pas d'endroit où aller qui était déjà à mon goût, mes besoins, etc. J'ai dit c'est quand même dommage que dans la deuxième ville de France, il y a cette manque et j'ai eu l'idée comme ça. Et puis,
C'était quoi qui manquait pour toi
C'était des vrais conseils, c'était l'humanité. Un truc beau. En fait, le modèle de ma boutique, c'est Other Nature à Berlin. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et ça m'a beaucoup inspirée parce que j'ai habité 1 an à Berlin. Et donc, j'attendais voir quelque chose comme ça ici. Je ne voyais pas. Donc, quelque chose d'humain.
Aujourd'hui, on parle de bien-être sexuel. En fait, on rapproche même la sexualité des questions de santé. Est-ce que ça a du sens pour toi?
Oui, complètement. Je trouve que c'est le corps, c'est physiologique. Après, c'est pas ma langue maternelle, je vous le dis, donc je vais pas faire problème. Des petites bêtises. c'est totalement, pour moi, il y a du sens. Ouais.
Et donc, c'est quoi le lien avec la santé, du coup, du bien-être sexuel pour toi?
Ouais, de tout. Je pense que c'est le corps. Donc, pour moi, c'est la santé, c'est le corps. Il y a aussi la santé mentale qui est hyper important. Mmh. Quand on parle de santé sexuelle, enfin, de bien-être sexuel, etc., tout est lié.
T'es dans une approche, en fait, quelque chose que tu voyais pas dans les sex shops classiques.
Oui, c'est ça. C'est que, à mon avis, on peut pas. C'est pas en achetant un jouet, un sextoy, qu'on peut changer sa vie ou trouver des solutions pour nos problèmes. C'est que voilà, la sexualité, le bien-être, le mental, enfin tout est lié. Et du coup, il faut avoir une approche holistique. Il y a pas un truc. Il faut le total.
Et justement, en fait, sur ces questions de sexualité, de santé, en fait, ça fait quelques années qu'on voit vraiment la parole autour des sujets de sexualité qui se libèrent. Enfin, typiquement, est-ce que tu aurais pu ouvrir ta boutique en 2010?
Je sais pas, pas à Marseille. Good Vibrations à Saransko s'est ouvert en 1977. Donc, c'est un peu la France qui est en retard par rapport aux autres endroits, je peux dire.
Est-ce que la question est beaucoup plus facilement abordée aux États-Unis qu'en France? Est-ce que tu ressens?
On peut pas dire aux États-Unis parce que la Californie, c'est pas pareil que l'Alabama. Mm. Mais oui, enfin, là où j'ai grandi, c'est très différent, mais il y a des périodes d'histoire différentes, les mouvements culturels différents, les militants différents, du coup on a une approche complètement différente que la France. Mais il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. C'est plus, ouais, dans certains sens c'est plus facile. Ouais.
Et même aujourd'hui, c'est quoi la réaction des Marseillais et Marseillaises par rapport à l'ITA, en fait, le fait que t'es ouvert... du coup, je sais même pas si tu l'appelles un sex shop. Enfin, c'est une boutique aphrodisiaque, ouais. Mettons, mais en plein milieu de la plaine, du cours Jean Jaurès, qui est... Enfin, c'est quoi la réaction des gens, des plénards, des plénardes?
C'est pour ça que c'est appelé boutique aphrodisiaque, parce que quand j'ai dit sex shop, les gens, ils aimaient pas du tout. Ils m'ont dit non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça... Il y a trop de mauvaises connotations. En anglais, c'est vraiment... Sex shop, c'est pas négatif ou positif. Mm-hmm. C'est juste... C'est complètement neutre. Pour moi, au moins. Et du coup, avec mes copines, on a essayé de trouver quelque chose qui n'était pas love shop, parce que je trouve ça un peu nul, parce que le sexe, ça peut être sans amour. C'est pas... Enfin... J'essaie vraiment de trouver quelque chose et puis je trouve que la culture française, la langue française est assez poétique, donc c'est pour ça qu'on a trouvé aphrodisiaque, ça marchait dans la langue et ça choquait pas tout le monde. Ouais.
Ta boutique, donc il y a le côté où du coup tu vends tout plein d'accessoires et en fait t'as aussi une association où en fait tu fais vraiment de l'éducation sexuelle avec des workshops, avec... Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais et pourquoi tu le fais?
Mais au début, donc j'ai ouvert 3 mois avant Covid. Et du coup, toutes les belles idées que j'ai eues au début étaient un peu en pause, parce que, on comprend tous. Mais l'idée au début, c'était de créer un endroit qui était basé sur l'éducation sexuelle, mais moins sur le démarche commerciale. Et à cause de Covid, c'est comme ça maintenant, donc on a gardé l'association, la boutique, je l'adore, il est là, il vit. Mais pour moi, c'était très important que les cours d'éducation sexuelle, les ateliers, les événements, etc., sont séparés de la démarche commerciale que je fais. Que les gens ils sentent vraiment que les conseils qu'on donne, il n'y a pas de... arrière-plan, je ne sais pas comment expliquer, mais qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt.
Et du coup, c'est quoi les workshops que vous faites, par exemple?
On travaille, donc on est trois. Il y a Irène Mirio, Cello, Léal Marzal. Et Cello, c'est un kiné. Du coup, elle est spécialiste du périnée. Du coup, on fait beaucoup de cours sur le périnée. On fait des cours sur les fluides. Il y a plein de fluides. Moi, je ne savais même pas et j'ai tout appris avec Cello. C'est des cours vraiment anatomiques. Après, il y a des cours de kink. On travaille avec des... Pour moi, c'est important que c'est des vrais conseils avec les gens qualifiés, que ce n'est pas juste... Donc moi, je ne m'inclus pas dans cette catégorie des gens qualifiés. Parce que je suis une commerçante, je vends des sextoys, je vends des lubrifiants, mais je ne suis pas du tout un sexe experte, je ne suis pas un sex-thérapeute, etc. Donc c'est les gens qui sont soit, ils ont fait des études, ou soit ils ont beaucoup d'expérience avec les années, avec la vie, etc. Mais c'est quand même, c'est beaucoup, on met beaucoup de temps à mettre en place cette quality control.
Contrôle de qualité.
Voilà. C'est pas n'importe quoi.
Ouais. Et du coup, dans tes échanges avec les clients, que ce soit à travers les conseils que tu donnes ou les workshops que vous organisez, qu'est-ce qui te marque, enfin, qu'est-ce qui te surprend ou qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans les réflexions que les gens te disent? Est-ce qu'il y a des choses qui te choquent ou qui t'attristent ou qui te font plaisir? Je sais pas.
Il y a rien qui me choque vraiment. Moi, j'adore être commerçante. J'adore être avec les clients, de parler. En fait, c'est la plaine. Du coup, vite, tu connais des amis de tout le monde. Ils vont venir avec leur mère. Enfin, c'est en plus une boutique où c'est assez agréable d'y être. Mm-hmm. Du coup, les gens, ils sont facilement à l'aise. Donc, c'est facile d'avoir des conversations hyper intéressant et très beau. Donc je dirais pas qu'il y a on m'a dit au début que ça sera très difficile, que ça sera des conversations compliquées avec les gens, que je serai obligée de virer de la boutique, mais en fait pas du tout ça, c'est plutôt des bonnes expériences. Et des fois il y a des questions médicaux, des problèmes gynécologiques ou d'autres où j'arrive à un limite de mes compétences, et du coup c'est à ce moment-là où je vais donner des contacts, mais la journée c'est plutôt cool. Ouais.
Ok.
Ouais.
Et est-ce que tu sais ce que les gens à peu près cherchent en venant chez toi, enfin tu vois, qu'on trouve pas par exemple dans d'autres love stores, dans d'autres sex shops, etc. Est-ce qu'il y a une... c'est quoi ce que les gens cherchent en venant chez toi?
Je pense qu'ils cherchent les vrais conseils et que aussi, ça soit des produits... J'ai un éthique quand même qui est assez fort, donc je ne vais pas vendre n'importe quoi. Mon but, ce n'est pas de faire des marges hyper importantes pour faire beaucoup d'argent, sinon je vous assure, j'aurais fait autre chose. Donc, je pense que c'est ça. Et c'est aussi l'expérience d'être avec quelqu'un qui a une... Je me soucie beaucoup pour les clients. Il y a des testeurs qu'on peut voir en vrai. C'est pas, j'ai peut-être pas les meilleurs prix, j'ai peut-être pas tous les choix qu'on peut avoir, mais il y a un côté humain que je pense les gens, ça manque sur Internet et ça manque dans les grandes surfaces.
Ouais. Et en fait, dans ta boutique, c'est marqué hein, directement. Enfin, on parle d'inclusivité. En fait, au niveau de... Enfin, ta boutique, elle est quand même très ouverte sur les thématiques LGBTQIA+. Et c'est quoi, en fait, vraiment le... Parce que, enfin, ces dernières années, on voit beaucoup dans la sextech, dans la femtech, beaucoup, enfin, tu vois, de jouets qui arrivent, enfin, que ce soit pour les clitoris, que ce soit, enfin, et vraiment, du coup, centré pour les... En tout cas, les corps de enfin, assignés femmes à la naissance. C'est quoi, toi, le besoin que tu vois dans les besoins plus queer au niveau de la sexualité?
Je trouve ça très dommage que les produits sont aussi genrés, mais pour tout le monde. Je trouve ça... Et je ne trouve pas de bonnes raisons, sauf des raisons de marketing. Et je suis de tellement démarches différentes que je comprends que c'est leur monde et il y a sûrement des études pourquoi ça marche comme ça, mais je ne fais pas partie de ce monde. Je trouve que des fois... Enfin, déjà, ce n'est pas inclusif, donc il y a déjà ça, c'est très dommage. Et aussi, je trouve que ça casse la créativité. Que finalement, par exemple, les plugs anneaux, c'est souvent marketing pour hommes, entre guillemets. Mais on a tous des anus, donc c'est vraiment nul. Et par exemple, encore un autre exemple, il y a quelques semaines, j'ai vendu un god avec... je ne vais pas dire le nom de la marque, mais c'est une god fait exprès pour qu'il y ait une partie qu'on met dans un vagin ou ailleurs. Mais le marketing pour ce jouet, c'est vraiment, on met ça dans le vagin et on pénètre le partenaire avec l'autre côté. Et il y avait un couple gay qui sont venus et on trouvait, c'est trop bien, en fait, c'est un poignet. Et j'ai dit, oui, c'est un poignet. Et ils ont vendu, mais si jamais j'avais présenté l'objet... ah non, c'est pour les filles, c'est féminin, c'est vagin. Enfin, ça, ils n'auraient pas eu le meilleur jouet peut-être de leur vie. Donc je trouve que c'est... Il faut être créatif, il faut prendre les choses comme ils sont et juste dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Évidemment, il y a des règles, il faut que ça soit safe. Mais par exemple, tout ce qui est dans l'anus, il faut qu'il y ait une barrière. Bon, bref.
Et
on ne peut pas mettre tout n'importe quoi dans l'anus, par exemple. Il faut que... Mais si on respecte les règles de safe play, les jouets, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Et si c'était plus neutre au niveau de marketing, ça sera mieux, je pense, pour tout le monde.
Et du coup, qui vient dans ton magasin? C'est autant des femmes que des hommes, que des hétéros, que des personnes LGBT?
Maintenant, c'est très mélangé. Ouais. C'est très divers. Au début, c'était beaucoup des gens qui s'identifient femmes dans les... assez jeunes. Maintenant, c'est vraiment, vraiment, vraiment très divers. Il n'y a pas de... J'ai pas de ciblée clientèle spécifique. Et je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas un truc comme ça à Marseille. Du coup, moi, mes clientèles, c'est les gens qui ne se retrouvent pas dans les autres boutiques sur le Croliotto ou ailleurs. J'ai beaucoup de clientèle âgée aussi, les gens de 60 ans et plus. Donc ça, c'était quelque chose que je n'attendais pas, mais maintenant, c'est logique et c'est trop bien. Et, ouais. Donc il y a un peu de tout le monde.
Parler un peu de communication rapidement. Toi, tu communiques sur Instagram avec ton magasin et ton association. Et normalement, en théorie, t'es pas censé faire de la pub pour des objets sexuels. C'est interdit, c'est ça?
Ouais, ouais.
Est-ce que toi, t'as une expérience du coup à la fois de shadowban, donc où en fait on limite beaucoup ton audience, le nombre de gens qui vont voir tes posts et tes stories, etc. Et comment tu fais pour contourner ça en fait du coup?
Bah, c'est systématique. Après, moi, je suis née à Silicon Valley et j'ai une avis très, très, très négative sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Je déteste. Je trouve que c'est toxique. Je suis obligée de le faire, donc je le fais. Et je pense que je le prends un peu plus légère que peut-être que d'autres. Je pense que, après, ça ne m'étonne pas du tout que mon compte soit shadowban depuis. Chaque fois, j'oublie de mettre des numériques dans le vagin, au lieu de mettre V-A-G-I-N, je mets un... Si jamais j'oublie de mettre le 1, c'est supprimé. Mon compte était supprimé plusieurs fois, c'était hyper stressant.
Okay.
Après, je pense que c'est... Instagram, pour moi, on ne peut pas enlever le côté capitaliste toxique du plateforme qui, pour moi, est plutôt un centre commercial qu'une plateforme d'éducation. Et du coup... un jour, ça ne va plus marcher et je ferai autrement. Après, mon démarche, c'est plutôt les liens avec les clients. Je pousse les gens le plus que je peux pour avoir de s'inscrire dans le newsletter. Et les événements, les ateliers, etc. que je fais, je pense que ça aide à cibler ce que je fais plutôt dans la vraie vie. Et heureusement, il ne peut pas monétiser ça encore. Donc, je suis pas très fan d'Instagram, j'avoue que...
Mais pour autant, c'est aussi beaucoup sur Instagram qu'il y a des conversations sur les plein de médias, de réseaux sexe positif. Enfin, je pense à Jouissance Club, je pense à Orgasme et moi. Enfin, il y a quand même ce que c'est en soi. Enfin, en tant que Instagram, en tant que réseau social, en tant que Silicon Valley. Et à la fois, il y a la manière dont on l'utilise. Et en fait, c'est vrai que depuis quelques années, il y a vraiment cette vague d'éducation sexuelle via Instagram.
Ouais, je pense qu'il y a des... C'est sûr qu'il y a des bons côtés de tout ce qui est... Enfin, c'est pas complètement négatif non plus. Mais je trouve que le bon côté qu'on peut avoir des réseaux sociaux, c'est... c'est pas égo au mauvais côté, pour moi. C'est pas... Donc je l'utilise, je suis sur Instagram. Et ça m'aide, j'ai des clients, je trouve qu'il y a des conversations intéressantes, qu'il y a des échanges intéressants et qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent être partagées après.
Et en fait, justement, donc, on parlait de Instagram, du shadowban, et en fait, du coup, ça relève d'un tabou qui existe, enfin, mine de rien, parce que comme tu le disais, en fait, Elsa, il y a ce truc-là où en fait, t'as pas le droit de faire de la sponso, par exemple, sur Instagram, quand c'est du coup des sextoys. Là où en fait, si tu veux vendre une baguette de pain, tu peux payer pour que plein de gens voient ta baguette de pain en poste. Dès que tu parles de sextoy, en fait, du coup, ça va contre les règles d'Instagram. Et du coup, t'as absolument pas le droit de sponsoriser ton poste pour faire parler de ton poste. Enfin bref, donc tout ça, ça relève quand même d'un énorme tabou. En fait, je me demandais par rapport au... Donc, tu parles de ta clientèle, etc. Moi, je sais que, par exemple, la première fois que j'avais mis... Enfin, que j'avais osé mettre les pieds dans un sex shop, c'est une copine qui m'avait dit « Quoi, t'as jamais fait ça, en fait ?» On était... Bon, c'était en plein milieu de Pigalle, en plus. Enfin, bref, cliché. Est-ce que il y a ce blocage des gens que tu sens par rapport au fait de mettre un pied dans ta boutique? Ou tu vois, même la différence entre, par exemple, le fait d'acheter en ligne et le fait d'oser venir dans ta boutique, est-ce que c'est une démarche?
Oui, oui, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise au début et après ils deviennent, parce que la boutique c'est quand même, c'est joli, je pense que ça aide que ça soit joli. Donc oui, je sens le tabou. Après quand je parle avec certaines personnes dans mes cercles ou les gens que je croise, en fait, ironiquement dans la boutique j'ai des conversations beaucoup plus... agréable que dans la vraie vie, entre guillemets. Quand je suis au bar ou au resto et on me demande ce que je fais, c'est c'est jamais une conversation qui se termine. Ouais, voilà, c'est « What ?» je sens le tabou. Après, donc, les réseaux sociaux, ça aide à déstigmatiser tout ça. Donc, ça, c'est un bon truc mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, je pense que les gens qui sont vraiment mal à l'aise chez moi, ils sont envoyés par une amie ou un ami. C'est vraiment la bouche à l'oreille qui aide, comme tu as dit, tu as un ami qui te... Moi, la première fois que je suis allée dans un sex shop, j'avais 18 ans ou 19 ans, et c'était avec une copine, je pense que c'était pas... Il n'y avait pas Instagram à l'époque, et c'était « Hey, on y va !»
Donc... Et vous n'avez pas rougi ni rien, quoi.
Non, non. Après, à San Francisco, c'était tellement... Il y en a tellement qu'il y a pour tous les goûts. C'est plus... Là, moi, je vends comme je peux, mais mon petite sélection, mais... moi, je ne sais pas comment dire en français, mais je suis... À San Francisco, c'est très ciblé par... goût. À Berlin, c'est pareil. Il y a tellement de sex shops que... Ouais, c'est lent et... Ouais. Donc c'était un contexte différent aussi.
Du coup, maintenant, on va parler un peu d'éducation sexuelle. C'est quelque chose... Enfin, nous, on est convaincus que ça devrait être beaucoup plus important, l'éducation sexuelle à l'école, etc. Toi, t'as eu quoi comme éducation sexuelle à l'école aux États-Unis?
C'était très basique.
Ouais,
c'est-à-dire je me souviens pas vraiment de beaucoup parce que c'est tellement bizarre comme expérience que ce que j'ai mais ouais, que voilà, le sperme il va dans, enfin, des trucs
anatomiques,
des méthodes de prévention pour ne pas tomber enceinte, enfin des trucs comme ça horribles, enfin après pas horribles mais vraiment genre que le seul but c'est de ne pas être enceinte et que c'est tout et, ouais, c'était vraiment nul. Après, moi, mon lycée, c'était très bien. C'était une éducation... Donc, même dans les lycées qui étaient bien en Californie, c'était... Après, je suis... Ouais, il y a longtemps.
Et tu sais si ça a changé depuis?
Je sais pas. J'ai déménagé en France quand j'avais 22 ans, donc je sais pas. Je suis pas très au courant de tout ce qui se passe, mais ça, à mon avis, ce que je vois sur les nouvelles, ça va dans un mauvais sens plutôt. Ouais. Donc.
Oui. Là, en ce moment, c'est un peu fait aux États-Unis.
Ouais.
Bah, moi, je me souviens surtout d'avoir vu une vidéo d'accouchement, d'avoir eu rapidement des cours d'anatomie, mais vraiment très très basique, peut-être un peu comment ça marche les règles, ce genre de truc. Mais j'ai un souvenir assez vague et où tout le monde ricanait, tout le monde rigolait. Enfin, c'était pas du tout pris au sérieux. Toi, Malik, ça avait cette expérience-là ou...
Je m'en souviens à peine.
Je m'en souviens même pas.
Enfin, en fait, je crois qu'on a peut-être eu une heure un jour, tu vois, mais... Mais en tout cas, ouais, non, à l'école, je me souviens qu'on avait... S'il y avait quelqu'un qui avait fait circuler une boîte à questions. Et du coup, on pouvait quand même mettre une question, enfin, tu vois, bah, du coup, anonyme. Donc, ce qui, en soi, peut permettre d'ouvrir la parole. Mais sauf que la personne qui intervenait était tellement pas à l'aise qu'en fait, elle remettait toutes les questions dans la boîte. Enfin, c'était... Et en plus, même le niveau des questions, c'était intéressant parce que du coup, ça partait même pas sur les questions d'éducation sexuelle. C'était du comment on fait pour avoir des plus gros seins. Enfin, je me souviens de celle-là qui m'avait marquée. Et du coup, oui, enfin, je me souviens de... En effet, la vidéo d'accouchement, ça, je l'avais vue aussi. Et après, je me souviens de cette vidéo de questions et cette boîte à questions et où à la fois j'étais hallucinée par par les questions qui étaient dedans, qui étaient plus sur le domaine physique ou en fait comment être plus sexy ou des trucs comme ça, plus que vraiment sur la question de sexualité. Alors qu'en fait, il y avait vraiment tout à faire parce qu'en effet, on avait eu trois mots sur un truc hyper hétéronormé et vraiment plus sur de la sécurité. Enfin. Comment pas tomber enceinte et encore même ça c'était à peine, enfin je m'en souviens à peine quoi, et je me souviens aussi de la gêne de la personne qui sortait les questions de la boîte quoi, et là tu te dis mais en fait il faut des personnes, enfin faut pas des profs pour faire ça, enfin faut pas des profs d'histoire pour faire ça, il faut vraiment des gens qui sont complètement à l'aise avec la question pour être en capacité de répondre à tes questions ou pouvoir dire même je sais pas.
Tout à fait. J'aimerais bien vous demander s'il y en a parmi vous qui ont des choses à raconter de cours de bio, d'éducation sexuelle, des anecdotes ou autres. Pendant que vous réfléchissez, moi je vais raconter un autre truc qui est Ovidie. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est une réalisatrice de documentaires. Je pense qu'elle est ancienne actrice porno, je ne sais pas si elle l'est encore. Elle l'est plus. Et en fait, donc, elle a fait tout un programme donc, où elle allait dans des lycées. Pour faire justement de l'éducation sexuelle ou dans des collèges, je sais plus, collèges et lycées. Bon. Et en fait, ce qu'elle raconte dans un podcast où elle raconte toute cette expérience, c'est surtout la réaction des parents et du personnel des établissements qui étaient outrés qu'une travailleuse du sexe, actrice porno, puisse venir parce que ça voulait dire qu'elle allait montrer aux enfants comment faire un gangbang ou je sais pas, enfin, qu'est-ce qu'ils s'imaginaient en fait. Alors qu'elle voulait juste avoir des conversations en fait avec les jeunes en se disant bah en fait vu qu'ils regardent tous du porno dès 11 ans quasiment, bah en fait il faut qu'on en parle avec eux parce que c'est très important, parce que c'est hyper dangereux de les laisser seuls face à ça. Et et vraiment le nombre d'établissements qui l'ont au final même pas laissé rentrer pour qu'elle puisse faire ses ateliers, c'était vraiment hallucinant. Enfin, au final, il y en a certains, je pense, où elle a réussi à le faire, mais c'était vraiment la guerre totale. Et entre voilà, les réactions des parents et du personnel, à chaque fois, c'était tellement... ouais, c'est ça, de gêne, de tabou, d'ignorance sur le sujet. Enfin, là-dessus, on a vraiment un gros, gros chemin à parcourir sur ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des histoires d'éducation sexuelle à l'école à raconter ou pas ? C'était à peu près ce qu'on a dit, genre vidéo d'accouchement, tout ça, rien de plus. Ok.
Moi j'ai une anecdote.
Ouais, vas-y.
C'est horrible.
Je
me souviens un moment où je me suis rendu compte que les tampons, que l'applicateur, ça s'enlève.
Ah.
Je savais pas. Et du coup j'ai dit. En plus, je nageais énormément, j'étais hyper sportive. Donc, j'ai toujours mis, je dis, c'est bizarre, ça fait mal, c'est nul, ça marche même pas en plus. Et un jour, je suis avec une copine, elle me dit, mais Alicia, c'est pas possible, tu l'enlèves. J'ai dit, ouais, ça marche pas. Elle, non, mais ça marche. J'ai dit, mais le truc, ça fait mal. Non, tu l'enlèves, le truc. J'ai dit, oh my God. Ça m'a changé la vie, mais c'est sûr que j'ai appris ça avec Natalia et pas avec le prof. Ni mes parents, d'ailleurs. Donc, ouais, non, c'était, tout était raté. Hein.
T'as appris ça à quel âge?
Ça faisait combien de temps? C'était très tard, j'étais en lycée. J'avais au moins 14 ans. Catastrophe. Je sais pas comment j'ai... Franchement, c'est dommage.
L'école, c'est une chose. L'autre chose, c'est les parents. Est-ce que tu as eu un sex talk avec tes parents à un moment pour parler de contraception, du fait que tu étais sexuellement active ou pas? Enfin,
non.
Jamais, tes parents t'en ont jamais parlé?
Ma mère, une fois, elle était en train de... Bon, elle va pas écouter le podcast, du coup, c'est en français, je peux le dire. Mais on était dans la voiture, elle m'amène au cinéma et j'allais retrouver un petit copain, en fait, pour... Elle me dit, Alicia, tu sais, on peut s'embrasser, mais je dis en anglais, tu peux traduire.
Okay.
No serious touching until college. bon, trop tard. c'est la première fois et la dernière fois qu'elle m'a dit. Donc, non, c'était, ouais.
Pour la traduction, ça fait vous pouvez vous embrasser, mais vous touchez pas, genre vraiment avant l'université. Mais
évidemment.
Évidemment.
Avant 25 ans, même, je pense.
Jamais.
Je crois que mon seul sex talk avec les parents, pour le coup, c'était avec ma mère. Et en fait, mais c'était. Peut-être que je lui dirais de l'écouter quand même, ce podcast, parce qu'elle va se marrer, je pense. Mais. En fait, c'était hyper chouchou de sa part, mais ça faisait peut-être un an que j'étais avec du coup mon copain à l'époque. Et en fait, j'avais 16 ans et quelques. Et en fait, à un moment, on était à table et elle me dit Mary, parce que ma mère est irlandaise, du coup, enfin, quand je parle telle, je fais son accent aussi. Est-ce que tu sais comment on fait? J'avais 16 ans et demi. J'étais comme tu parles de quoi le sexe. Et j'étais genre, c'est bon. Et du coup, elle me disait, tu fais attention, etc. Et genre, enfin, vraiment, tu veux pas en parler, pour, un peu pour le béaba, quoi. Et j'étais genre, en fait, c'est hyper cute. Enfin, je sais que ça lui coûte beaucoup de lancer cette conversation alors que j'ai 16 ans et demi et que, enfin, c'est pas un sujet facile, c'est un sujet tabou. C'est qu'elle me parle aussi du fait que ayant grandi dans une Irlande hyper religieuse, etc. Enfin, c'était vraiment un sujet hyper tabou. Donc, je sais à quel point ça lui coûte à ce moment-là. Mais à la fois, je sais à quel point c'est complètement en décalage, quoi. Enfin, c'est... enfin, bref. Du coup, c'était l'histoire rigolote sur le sex talk avec, du coup, ma mère.
Bah, moi, j'ai une histoire un peu dans le même style où, en gros, quand j'avais, je pense, 16 ans aussi... Pareil, j'avais un copain et je crois qu'une fois, genre, je l'avais ramené chez moi et que j'espérais qu'elle allait pas trop se rendre compte qu'en fait, il allait dormir là. Mais du coup, elle m'avait dit « Non, mais il dort dans le salon. » Et je crois qu'après, elle m'avait grillé que j'étais allée dans le salon pour le rejoindre ou un truc comme ça. Bref, donc, elle m'avait dit genre « Non, mais tu peux pas faire ça. C'est quoi cette histoire et tout ?» Et donc, moi, j'avais déjà des relations sexuelles avec lui. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai écrit une lettre à ma mère, alors qu'on habitait dans la même maison. Et je lui ai écrit une lettre en lui disant « Écoute, de toute façon, c'est trop tard. Moi, j'ai déjà eu des relations sexuelles. Donc maintenant, t'as intérêt à m'amener chez la gynéco et à me faire prendre la pilule parce que voilà, de toute façon, c'est trop tard et tout. » Mais genre une longue lettre, au moins 2-3 pages. Et j'étais tétanisée hein, parce que sinon, je l'aurais dit en vrai. Donc j'avais grave peur. Mais bon, dans la lettre, j'étais quand même assez... Et elle est venue me voir et elle m'a dit elle est venue avec la lettre, elle m'a dit j'ai lu ta lettre, bon ok. Et au final ça a marché, enfin je veux dire, elle m'a pris rendez-vous chez la gynéco et tout, parce que bon, ma mère est hyper féministe et tout, c'est clair qu'elle allait pas faire autrement, et au final c'était cool. Mais c'est vrai que je me dis justement, venant d'une féministe, j'étais étonnée qu'elle ait pas pris les devants un peu pour amorcer le truc. Je pense qu'aujourd'hui il y a plein d'exemples, enfin, moi je vois par exemple sur TikTok, il y a plein de gens qui racontent justement des expériences, ce que leurs parents leur ont dit, comment ça les a aidés dans leur vie sexuelle, à être beaucoup plus épanouis, safe, etc., etc. Je pense que là-dessus aussi, il y a beaucoup de travail à faire, parce que bon, être parent déjà, c'est pas évident, on n'a pas le mode d'emploi, mais alors vraiment sur ces questions-là, c'est une question de santé et de sécurité encore plus. Pareil, est-ce qu'il y en a qui veulent nous raconter des sextalks avec leurs parents ?
Bonjour à tous. Moi justement c'était pas du tout par la parole parce que je pense que mes parents étaient bloqués par ça justement. Alors mon père c'était même pas envisageable. Mais ma mère en fait je me souviens assez jeune qu'elle nous a offert des livres en fait. Parce que je pense qu'elle pouvait pas parler mais je pense que vers... Je crois que ma sœur avait eu le 11-15 ans et moi j'avais eu le 8-9 ans, un truc comme ça. Du coup c'était des livres pour justement d'éducation sexuelle mais pour expliquer genre la base et tout. Donc moi j'avais lu celui de ma sœur de 16 ans parce qu'il parlait de plus de trucs et tout. Je trouvais ça assez marrant. Et c'est vrai qu'après, elle a continué comme ça à nous offrir des livres parce que je pense qu'il y avait un peu les deux côtés en elle qui se battaient, un côté un peu, je pense, traditionnel et plus un côté féministe, même sur le plaisir féminin et tout ça. Elle m'a offert des livres, même assez jeune, je crois que j'avais jamais déjà fait l'amour, elle m'offrait déjà des livres sur ça, donc c'était pas mal. Mais c'est vrai qu'en fait, donc ça c'était genre vers, je sais pas, 17 ans, 18 ans que genre on en a parlé et je lui ai dit, mais en fait, tu m'as jamais parlé de ça. Et elle m'a dit, ben... j'estime que si t'es assez grande pour faire l'amour, t'es assez grande pour, genre, en gros, t'éduquer sur comment te protéger. Et ça m'avait choquée, en fait, parce que cette discussion venait du fait que mon père avait parlé à mes frères, parce que du coup, j'ai une grande sœur et deux petits frères, et mon père avait parlé à mes frères de, genre, en gros, être safe, et ma mère nous avait jamais parlé à nous. Et donc, j'avais trouvé ça hyper injuste, et quand je lui avais fait la remarque, elle m'avait répondu ça. Donc... à méditer, je ne sais pas.
C'est intéressant, effectivement, que on a... Enfin, dans l'imaginaire collectif, j'imagine plus... une mère ou un père donner des capotes à son fils en mode « bon, tu vas pas nous ramener une meuf enceinte, c'est bon quoi ». Et les femmes, c'est genre « on n'en parle pas, on espère qu'il se passera rien », alors que... Bah,
non, évidemment, on pourrait nous donner des capotes, tu vois.
Oui, pareil, déjà.
Ça marcherait.
Au minimum, quoi. Mais dans les films, dans les séries, on voit beaucoup des parents donner des capotes aux fils, mais pas aux jeunes femmes, alors. C'est tout aussi pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres histoires de... Yes.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, mon anecdote, elle n'est pas forcément très drôle, mais c'est, je pense, nécessaire d'en parler. Il n'était pas question de parler de sexualité avec mon père, donc ça a toujours été plus ma mère. Mais pareil, il n'y a jamais eu énormément de paroles. Ça a été surtout des livres ou alors des jeux éducatifs. Le livre, ça a été le guide du zizi sexuel de Titeuf, que tout le monde connaît, j'imagine. Et donc ça a été plutôt ça, et puis elle attendait surtout en fait que ce soit moi qui prenne l'initiative de poser des questions, sauf qu'il y avait toute cette construction de la société qui faisait que c'était très tabou, le plaisir féminin, la masturbation et tout, donc c'était pas évident pour moi de prendre l'initiative, et la seule initiative que j'avais prise quand j'étais très jeune, elle s'était sentie mal à l'aise, donc ça m'avait pas forcée à répéter la chose. Et en fait... ensuite, quand j'ai eu 17 ans et que du coup je commençais à sortir, il n'était pas encore question de copains ou de sexualité, mais quand j'ai commencé à sortir, malheureusement, la seule manière qu'elle a trouvée pour un peu commencer à aborder la conversation, c'est de parler d'avortement et de son expérience à elle. Et elle l'a faite de façon très maladroite. C'est vraiment pas évident d'en parler aujourd'hui, enfin pour moi, même si on en a reparlé avec ma mère, mais je trouve ça hyper important quand même d'en parler. C'était vraiment pas le moment choisi, et elle mentionne le fait que je commence à sortir, donc à voir des gens, et un peu de but en blanc, malheureusement, elle dit, tu sais, à 19 ans, moi j'ai dû avorter. Et du coup, ça a fait un choc. Ça a fait clairement un choc, je m'attendais clairement pas à ce genre de discussion de sa part. Ma mère n'a pas eu la chance d'avoir une éducation sexuelle de la part de sa grande sœur ou de sa mère. Et donc du coup, la situation a fait qu'elle s'est retrouvée à un moment être obligée d'avorter, et ça a été hyper mal reçu par ma grand-mère aussi, donc... Mais le problème, c'est que ça a été hyper maladroit de la part de ma mère, même si on en a reparlé. Il n'est pas question de juger si c'était bon ou mauvais, mais je lui ai dit, tu te rends pas compte à quel point c'était violent de, quand tu commences justement ta vie sexuelle, de parler d'avortement. En fait, je sais qu'elle avait juste peur pour moi, que c'était une manière de montrer qu'elle avait peur pour moi et que voilà, il fallait faire attention et tout, mais ça a été pas vraiment la meilleure des façons d'aborder la chose. Enfin, je savais déjà ce qu'était l'avortement à 17 ans. J'avais des copines qui malheureusement avaient dû affronter ça déjà. Mais voilà, on en a reparlé et maintenant on a compris, enfin elle a compris que c'était pas la meilleure façon d'aborder ça. Mais enfin, j'aurais aimé que ma mère me parle peut-être plus tôt, mais enfin après voilà, c'est malheureusement voilà, on est parents et on fait du mieux qu'on peut. Mais de plaisir féminin par exemple, de masturbation, parce que ça, pendant hyper longtemps, pour moi, c'était tabou. C'était quelque chose que je cachais. Enfin, regarder de la pornographie, se masturber, c'était tabou. Ou alors la masturbation, c'était surtout réservé aux garçons. Et même ça, pour eux, c'était considéré comme ça, alors que non, c'est juste naturel. Et ça l'est autant, enfin, pour tous les genres et toutes les sexualités possibles. Donc voilà, pour moi, ce qui manque surtout en éducation sexuelle, que ce soit de la part des parents ou de l'école, après, qui a le rôle de faire ça, c'est encore hyper difficile à déterminer, mais de parler que tout le monde peut avoir du plaisir et tout le monde peut se masturber dès le plus jeune âge, et c'est pas, faut pas en faire un tabou. La pornographie est pas le meilleur exemple qu'on a, mais c'est pas non plus horrible d'en regarder, quoi. Enfin, faut un peu déconstruire tout ça. Donc voilà.
Merci beaucoup pour ce partage, vraiment. Oui, c'est vrai, je pense qu'on a une conception, une culture de la prévention qui est très faire peur, en fait, de manière générale. Et moi, ça me fait penser, quand ma mère a appris que je fumais du shit, je sais pas, j'avais 13 ans, elle m'a dit qu'elle avait des amis qui étaient morts d'une overdose. Alors que bon, c'est un peu radical. Et je sais qu'elle pensait pas mal, enfin, c'était parce qu'elle avait peur pour moi et qu'elle s'imaginait que ça pouvait partir très loin, très vite. Et je pense que c'était pas du tout la bonne réaction à avoir. Mais encore une fois, on n'apprend pas aux gens à être parents, à avoir ce genre de discussion. Donc, ouais.
Mais après, même sur... Enfin, tu vois que ça... Enfin, merci encore pour vos témoignages. Que ce soit sur même la personne là qui sortait de la boîte à questions, des questions qu'elle remettait dedans parce qu'elle n'était pas du tout à l'aise, que ce soit du coup faire de la prévention, mais pas vraiment de la peur, quoi. Enfin, c'est, et à la fois, j'imagine que ça lui a beaucoup coûté de t'en parler, enfin, de, et qu'elle devait se dire que c'était hyper important. Et c'est hyper important de se dire que ça existe. Bon, après, ça peut être hyper violent à recevoir parce que tu te dis, j'en mets, j'arrive dans la vie, dans la vie sexuelle, ça va être le fun. Ah ouais, merde, en fait, ça peut être atroce. Ok, trop bien. Enfin, un peu aux douches froides. Mais où, en fait, je pense qu'il y a aussi un truc de... Enfin, d'où aussi le besoin, je pense, de personnes qui sont très à l'aise pour en parler et pour faire de l'éducation. Parce que moi, je vois, par exemple, ma mère qui a reçu une éducation très religieuse en Irlande, où en plus, la séparation de l'Église et de l'État, à ce moment-là, c'était pas vraiment tout à fait ça. Et qui... Du coup, en fait, je lui ai offert un livre de Jouissance Club à un de ses anniversaires. Et en lui disant, c'est un cadeau de ma génération à la tienne. Et en fait, elle m'a fait les cadeaux qu'elle a pu me faire, de par plein d'éducation, de par des réflexions, même féministes, sans même s'appeler elle-même féministe, mais même dans des manières qu'elle avait d'agir. Il y a des trucs qui sont très empouvoirants et que j'ai beaucoup appris d'elle. Et sauf qu'en fait, nous, à notre époque et dans notre génération, on parle de ces sujets, on se les approprie, on se dit que c'est important, on se dit que c'est pas uniquement par la peur que, c'est pas uniquement par le fait de terrifier des gens que... Et en fait, on explore aussi le côté joyeux de tout ce qui est sexualité, sexualité positive, etc., etc. Et où du coup, clairement, je crois que son copain avait zioté le livre, elle avait dit genre, je le lis seul celui-là. Mais mais enfin, vraiment, c'était aussi des ressources qu'il n'y avait pas à son époque-là. Et du coup, c'était des ressources qu'elle pouvait pas non plus m'enseigner, dans le sens où c'était inexistant à ce moment-là. Et c'est des ressources que nous, on se crée aujourd'hui, quoi, et qu'on s'échange. Mais du coup, c'est très générationnel aussi.
Maintenant, avec les livres comme Jouissance Club, etc., et ce que j'essaie de faire avec l'association, on l'appelle l'école des joies, c'est que l'éducation sexuelle, ça s'arrête pas à 18 ans. Pour moi, c'est totalement pas logique. Enfin, évidemment, il faut l'éducation sexuelle avant. Il faut que ça soit basé sur le plaisir, etc., et pas que sur le peur, mais que aussi que ça s'arrête pas au moment où on... Où ça commence. parce que c'est là où on a des questions, c'est là où on a... Enfin, je trouve ça dommage. Du coup, je trouve que les livres comme Jouer sans scrub, c'est une des premières démarches pour changer la société aussi, pour qu'on normalise le fait de s'éduquer tant qu'adulte, que c'est normal aussi, que c'est un apprentissage de vie. Et qu'il y a des périodes de vie qui changent aussi. On n'est pas pareil à 20 ans qu'on est à 60 ou à 80.
Jouer sans scrub dans tous les CDI de France.
Ouais, franchement,
j'espère bientôt.
Est-ce qu'il y a d'autres témoignages sur les questions de discussion avec les parents ou autres?
Yes. Bonjour. Alors moi j'ai eu deux conversations avec ma mère à propos de sexe dans ma vie. La première c'était quand j'étais encore mineure et que j'avais mes premières relations sexuelles. Et en fait c'était... Enfin j'ai eu mes premières relations sexuelles avec mon premier copain de l'époque et je savais pas qu'il fallait aller faire pipi après le rapport. Donc forcément au bout d'un moment j'ai chopé une cystite et j'ai attendu une semaine avant de l'avouer à ma mère parce qu'il y avait tellement un tabou et c'était tellement gênant. Donc j'ai attendu une semaine, au bout d'une semaine elle m'a emmenée chez le médecin, elle m'a accompagnée et donc le médecin a dit que c'était une cystite et donc là ma mère m'a dit ah bah il faut faire ça après le rapport, il faut aller faire pipi, faut bien nettoyer. Et là on a eu notre première conversation mais c'était très médical, genre le plaisir, tout ça, nada. Et du coup la deuxième conversation que j'ai eue avec ma mère à propos de sexe, c'était il y a quelques années, genre un ou deux ans, quand j'avais 22 ans je pense, ou 21, un truc comme ça. Et c'était elle qui me posait des questions du style parce que j'avais eu un copain pendant l'été qui venait beaucoup me chercher et du coup elle était en mode c'est ton copain, et du coup je lui expliquais que non, c'était mon plan cul, mon sex friend, tout ce qu'elle voulait. Et elle est devenue un peu rouge tomate, et moi aussi forcément. Mais du coup c'était, elle a posé plein de questions parce qu'elle n'avait que connu mon père et elle était très gênée, elle était en mode ah c'est possible mais comment ça se fait, d'accord, voilà. Donc je trouvais ça intéressant que la vapeur se soit inversée, que ce soit elle qui apprenne de moi. Et elle m'a pas du tout jugée pendant cette conversation ni rien, donc c'était très bien. Et je trouve que c'est bien de parler de manière plus libérée à ses parents de sexe, et ça devrait être fait dès la plus jeune enfance parce que ça apporte des tabous comme ça et ça mène à des cystites que je voulais pas du tout. Donc voilà, c'est important.
Merci. Quelqu'un d'autre?
Yes.
Bonjour. Du coup moi c'est pour plus pour parler de non-conversation. Je sais pas si c'est culturel ou pas, du coup je viens de l'Est où pour moi c'est encore très culturel, ancré, que tout ce qui est misogyne. Ma famille, du coup, l'est beaucoup. Il y a une grande différence entre mon frère et moi. Et pour ma mère, même pour mon père. Donc, par exemple, mon père n'a pas le droit de s'occuper de moi parce que j'étais une fille et pas un garçon. Donc, la relation père-fille n'existe pas. Et pour ma mère, tout ce qui était, du coup, sexuel, ou même tout ce qui pouvait toucher les règles ou la puberté, c'était du non-dit. On n'avait pas en parler, c'était sale. Du coup, mes premières règles, je les ai... Heureusement, j'avais ma meilleure amie qui les avait eues avant moi. Et l'éducation sexuelle a aidé là-dessus. Après, je sais pas si c'est pareil, mais nous, la nôtre est très axée sur la reproduction et la peur. Et du coup, il y a quand même eu ça qui m'a aidée, où j'allais voir l'infirmière pour demander des protections. Et au bout d'un certain temps, de cacher les culottes sales, j'ai dû quand même le dire. Et du coup, on allait en course. Donc quand je lui disais que j'avais besoin de protection, elle faisait comme si elle n'avait pas entendu. Et quand on arrivait en course, elle s'arrêtait devant le rayon en me disant... Ah, est-ce qu'il y a, il y a besoin de quelque chose à la maison? Est-ce que on nous demande quelque chose? Du coup, j'étais là, bah oui, ce rayon. Et du coup, j'allais chercher et elle mettait bien au fond du caddie. Et quand on arrivait à la caisse, elle me cachait bien en dessous. Une fois que c'était passé à la caisse, elle mettait bien en dessous des sacs. Et quand on arrivait, c'était ah, tu peux emmener ce sac en haut, même s'il y avait de la nourriture dedans. Fait vraiment que aucun homme de la maison ne voit. C'était très sale. Fallait pas qu'on montre. Quand j'ai eu la chance ou non d'avoir un copain et que ça s'est fini, c'était t'es une garce, t'es une traînée, t'es une pétasse, comment t'as pu le quitter? Maintenant, dit que j'ai des soucis de santé, par exemple j'ai des gencives un peu inflammées, c'est ah, qu'est-ce que t'as chopé? Donc c'est vraiment le sexe, c'est sale. Si t'as fait quelque chose, si t'as un copain, t'es sale, c'est pas normal. T'es forcément une traînée, une pute, tout ce qui va avec. Parce que t'es une fille et que tu devrais pas forcément avoir de liberté ou de choses là-dessus. Et c'est vraiment que des non-dits, à part pour dégrader et être abaissant. Et je pense que c'est important d'en parler, parce que je pense pas que ma famille soit la seule dans ce cas-là, d'être la seule dans ce cas-là non plus. Et qu'aujourd'hui, heureusement, la parole s'ouvre beaucoup. On a accès à beaucoup d'informations grâce aux réseaux sociaux, même s'ils ont beaucoup de côtés négatifs. Mais je pense que ça peut aider ces personnes, qui n'ont, que ce soit hommes comme femmes, ou autre genre ou autre situation, où les familles sont très limitées et ont des esprits très fermés et sont encore dans des anciennes façons de penser. Parce que ça s'ouvre beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont très fermées et qu'il y a des enfants dans ces familles-là et que ce n'est pas forcément facile après de s'épanouir.
Merci beaucoup.
Merci.
Bah, pour ce qui est du tabou par rapport aux règles, c'est intéressant parce que ce que tu décris, moi, je le faisais sans que mes parents me l'enseigne en fait, c'est-à-dire que je voulais jamais parler du fait que j'ai mes règles, j'ai eu vachement de mal à le dire à ma mère, mon père je crois qu'il a jamais su, ils étaient séparés donc je le voyais que pendant les week-ends et les vacances, donc il devait bien s'en douter au bout d'un moment, mais tu vois genre je lui disais et j'allais toujours cacher, toujours, alors que ils m'ont jamais rien dit par rapport à ça et que, mais c'est fou à quel point, enfin je pense que ta mère, elle avait bien intégré le tabou, parce qu'elle-même, elle est une femme, donc elle avait ses règles aussi et tout. Et c'est fou à quel point on peut l'intégrer, même sans que nos parents nous l'aient dit. Mais oui, bien sûr, les réseaux sociaux, ça aide beaucoup de gens qui sont dans des familles où ils peuvent absolument pas parler de sexualité, etc. Je pense que ça doit vraiment apporter beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Je crois qu'il y en avait un autre derrière, non ?
Ouais.
Merci.
Bonsoir. Alors, en fait, moi, je vais pas parler de mes parents. En gros, je suis éducatrice spécialisée. Et j'ai bossé 3 ans dans un foyer accueillant des jeunes de 16 à 21 ans, placés par l'aide sociale à l'enfance, donc ce qu'on appelle la DAS dans l'univers commun. Et en fait, c'est ultra arriéré là-bas. Moi, j'ai fait un stage de 1 an là-bas et donc mon sujet de mémoire, du coup, c'était la sexualité, enfin la prise en compte de la sexualité des jeunes dans les foyers. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la parole, elle s'ouvre, elle commence à s'ouvrir, mais dans le monde du handicap, en fait. Et enfin, c'est même à moitié à la mode, quoi. Et en fait, chez les jeunes en foyer, c'est invisibilisé, c'est vraiment et même voilà les même l'équipe et tout. Enfin moi je me suis retrouvée à faire à la limite de l'éducation sexuelle à des collègues quoi, hommes cisgenres, et parce que vraiment il y a eu enfin le nombre d'idées reçues et tout et voilà et donc c'est juste pour un peu témoigner de ça. Et donc du coup bah moi ce qui était chouette c'était que avec mon mémoire, j'ai pu mettre en place un petit peu de... J'ai mis un petit groupe de parole en place. Donc ça, c'était super chouette. Mais en fait, quand j'ai annoncé l'intitulé de mon mémoire, ça a fait une vague de froid énorme. Moi, il y avait zéro formation sur la sexualité. Alors que les jeunes, pour la majorité, ils avaient quand même des parcours dans la protection de l'enfance depuis... la petite enfance, quoi. Donc, en fait, leur éducation sexuelle, c'était très peu. Et en fait, ça conduisait à des conduites à risque très fort, quoi. Et du coup, voilà. Et en fait, c'était assez... c'est assez désolant comment c'est invisibilisé et comment le sujet, il n'est pas du tout pris en compte. Alors que nous, on le voit dans notre vie, en ayant eu des parents, en ayant été chez nous ou quoi, enfin, voilà. Et eux, c'est fou. Et donc, du coup, il y a les prémices un petit peu qui commencent à se mettre en place. Mais dans le milieu de la protection de l'enfance, c'est compliqué. C'est une bataille même pour les professionnels, quoi, en fait. Même entre nous, moi, je me suis... Enfin, pour l'anecdote, par exemple, j'ai eu un collègue masculin. On avait une jeune qui nous demandait de prendre la pilule du lendemain. J'ai eu un collègue, ça devait être, je ne sais plus, la troisième fois, qui a dit « Moi, je refuse de l'emmener prendre la pilule du lendemain parce que ça la met en danger. Et de toute façon, elle va devenir stérile. » Voilà. Elle va devenir stérile, donc elle se met en danger, tout ça. Et enfin, voilà, quoi. Parce qu'en gros, si je l'emmène prendre la pilule du lendemain, je cautionne... Enfin, je participe pas à son éducation sexuelle, quoi. Parce que du coup, je cautionne qu'elle ait eu des rapports non consentants. Voilà. Et donc, enfin, même... Enfin, c'est fou, quoi. Voilà, c'était juste pour témoigner de ça.
Merci beaucoup. Ouais, c'est super intéressant. Ben, je pense que comme dans tous les domaines, plus il y a des inégalités sociales, et plus on va ressentir, justement, les conséquences de ces tabous-là, en fait. Et comme tu dis, c'est des conduites à risque... clairement pour la santé, qui peuvent être très graves.
Et t'avais, ça me rappelle aussi ce qui avait été dit un petit peu avant sur le côté, si j'estime que t'es assez grande pour avoir des rapports sexuels, dans ce cas-là, j'estime aussi que t'es assez grande pour te renseigner dessus. En fait, au contraire, t'as des études qui montrent que plus tu parles tôt de sexualité, avec tes enfants, avec des jeunes, moins il y a de conduite à risque derrière. Mais parce qu'en fait, il y a aussi ce truc-là où... Bah en fait, quand t'es ado, ou même quand t'as toutes ces hormones qui arrivent, etc., bah en fait, tu cherches des réponses. Enfin, y a tout ça qui est nouveau, etc. Tu vas chercher des réponses. Les seuls trucs sur lesquels tu tombes quand tu tapes sur Google, c'est du porn, hyper hétéronormé, patriarcal, tout ce que tu veux. Et c'est la première source d'éducation sexuelle vraiment que t'as. Et où, en fait, il y a ces études-là qui te montrent que, en fait, plus t'en parles tôt avec les personnes, mais en fait, moins t'as de conduite à risque derrière, moins t'as aussi, d'accidents, d'avortements, et tout ça qui... Bon, parfois, ça peut être aussi du pur hasard, mais parfois, ça peut aussi venir de méconnaissance de comment ça fonctionne, la contraception. Et du coup, dire que en donnant une pilule du lendemain à quelqu'un, tu ne contribues pas à son éducation sexuelle. En fait, c'est vraiment inverser le sujet. C'est le prendre par la conséquence plutôt que par la cause, et en fait pas du tout répondre à la cause.
Alors qu'il n'a jamais prise, en plus.
Oui, bah en plus, sans même parler de ça.
Du coup, on peut peut-être terminer par un peu un brainstorming sur ce serait quoi l'éducation sexuelle idéale. On a déjà donné un peu des pistes, mais toi, qu'est-ce que t'en penses, genre à l'école, si on était dans un monde idéal et qu'on n'avait pas de limites, qu'est-ce que t'imaginerais comme dispositif ?
Déjà que ça sera pas mis sur les épaules des parents, que ça soit totalement séparé et que ça soit chaque année. Et que ça se termine pas à 18 ans, que ça soit des parcours qu'on continue dans la vie, dans les structures différentes, mais que ce soit un travail de vie.
Depuis le début de l'éducation, enfin.
De kindergarten jusqu'à.
Parce qu'il y a un peu des débats, je pense aux États-Unis, en France, sur le wokisme en général et sur les questions LGBT et sur les questions de sexualité. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en maternelle on va faire des cours sur du porno ou je sais pas ce qu'ils pensent, alors que l'idée c'est plutôt de parler de consentement, de choses comme ça,
oui,
et qui sont hyper importantes pour les enfants, surtout quand on voit les statistiques de pédocriminalité, etc. Enfin, je pense que c'est vraiment pas un détail, quoi. Mais oui, effectivement, je suis assez d'accord. Ouais, quelque chose qui serait vraiment récurrent, en fait.
Oui,
c'est pas un truc qui arrive juste en cours de troisième, enfin.
Oui.
C'est toute la vie, quoi.
Il y a des moyens pour expliquer, comme tu dis, sur le consentement. C'est le truc de base pour tout. Du coup, un enfant qui a même 3 ans, on peut l'apprendre. Non, tu la touches. Elle a dit non. Tu la touches. Enfin, et ça, on a déjà gagné à 3 ans. Enfin, si on commençait par ça, déjà, on sera mieux.
Oui, et puis il y a aussi la question de la masturbation. Parce qu'en fait, on fait comme si de rien n'était. Mais les enfants, ils se masturbent beaucoup. Même en maternelle, etc. Et on a tendance à dire « Ah non, fais pas ça, c'est la honte, etc. » au lieu d'en parler avec eux, quoi. Malik, t'as des idées de...
Sur ce côté, tout au long de la vie, en fait, dans les établissements scolaires, t'es censé, ça fait plusieurs années que t'es censé avoir plusieurs heures par année sur de l'éducation sexuelle dans chaque établissement. Mais c'est jamais appliqué. Donc, enfin, il y a des trucs où il y a des bonnes idées qui sont déjà là et qui, en fait, si elles étaient appliquées, en fait, si juste le règlement était appliqué, ça irait déjà pas mal mieux. mais où juste, bah, tu te rends compte que c'est aussi dans les mœurs que ça bloque, quoi. Et après, il y a la question de par qui l'éducation sexuelle est faite. Ouais. Et enfin, clairement, si tu donnes ça, je trouve ça hyper intéressant de déconnecter, de décorréler ça des parents. Et en fait, même du corps enseignant, enfin vraiment de faire intervenir des personnes qui sont mais vraiment à l'aise avec la question, qui vont pas rougir, qui vont pas te terroriser, qui vont juste être complètement à l'aise et surtout experts et expertes du sujet pour être en capacité de vraiment te renseigner et de vraiment te donner des billes t'as une question, en fait t'as une personne qui va sans même rougir ou avoir un vieux ricanement te répondre de manière très honnête et comme si c'était un sujet, enfin. Mais parce que c'est un sujet normal. Enfin, en fait, c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. Enfin, et même si t'as pas de libido, ça te concerne aussi, parce qu'en fait, c'est OK de pas avoir de libido. Exactement. Et en fait, si tu le sais pas, si on te le dit jamais, bah du coup, tu grandis en me disant que t'as un problème. Alors qu'en fait, non. Enfin, en fait, c'est une réalité comme il en existe 10 000, quoi. Et donc, déjà ça. Déjà, appliquer le règlement, ce serait pas mal. Faire en sorte que ce soit des intervenants et des intervenantes compétentes et pas gênées par la question. Et j'avais une autre idée que je viens d'oublier.
Et vous avez des idées sur la forme que ça pourrait prendre, l'éducation sexuelle ?
Ah, écoute, c'est plein d'histoires. Vos histoires, surtout à vous, sont très similaires. École maladroite, parents dramatisants, tu vas être enceinte et ça va être la fin de ta vie. Je trouve que c'est ni l'école ni les parents. Alors, j'aimerais bien que ce soit les deux. Hein. Moi, je ne pense pas du tout qu'il faudrait exclure les parents. Il faudrait qu'ils soient décontractés. Plutôt, ils parleraient. À l'école, effectivement, des intervenants extérieurs. Mais il me semble que, du coup, c'est ailleurs. Pour moi, là où ça se passe mieux, c'est avec les médecins. Donc, je trouve que les filles qui peuvent voir un gynéco jeune s'en sortent mieux. Il y a des gynécos affreux qui sont très conservateurs, mais il y en a qui aident. Et il n'y a pas de lien. Alors, je me demande souvent comment font les garçons, parce que je crois qu'ils ne vont pas avoir de gynéco. Mais d'autres médecins, ça peut aussi être un kiné ou un médecin généraliste. Et les médias, et notamment le cinéma. Franchement, moi, ça a changé ma vie. J'habite en Angleterre et il y a une série très drôle qui a été lancée là-bas, qui s'appelle Sex Education, qui est assez catastrophique. Hein. Il y a plein de mauvais exemples. Mais ça dédramatise complètement la façon de parler aux très jeunes du sexe, avec du transgénérationnel, et beaucoup de très beaux films. Et parfois, des films très gênants et très tabous. J'ai vu, si vous avez vu sur Arte, un film qui s'appelle Clève, qui est adapté d'un roman de Marie Darrieussecq sur une fille jeune qui est très abandonnée par son père et une mère dépressive, et donc elle utilise sa sexualité pour se découvrir, et c'est assez choquant sur plein de niveaux. Ça se passe dans les années 80, mais je pense que ça résonnera avec plein de gens de notre génération. Mais au moins, bah, c'est hyper cash sur plein de sujets. Et ça montre tout ça, comment les hommes n'arrivent pas à parler aux femmes de leur corps de femme, parce qu'ils se sentent agresseurs. Et donc, je trouve, dans la littérature et le cinéma, à mon avis, ça a sauvé la vie de plein de gens. Et puis, c'est plus facile de parler à ses copines et à ses parents d'une histoire de fiction. Et donc, du coup, ça ouvre un peu des discussions. Donc, emmener les gens voir des films indépendants coréens et chiliens et même français, même si parfois c'est choquant, quoi. Donc, s'il y a d'autres, ça inspire d'autres idées, évidemment, on espère que ça soit mieux, mais c'est déjà ça. Et puis, il y a YouTube et il y a Instagram, quoi.
Mais après, tout dépend sur quoi tu tombes sur YouTube, c'est toujours ça la question. Mais en tout cas, c'est des supports, les séries, les films et tout, qui pourraient être utilisés dans les sessions d'éducation sexuelle à l'école, etc. Ouais, c'est des très bons supports.
Le fait que Sex Education se passe dans une école, c'est quasiment, et c'est financé par la BBC, donc c'est public, c'est quasiment un message dans un pays où tu mentionnais l'Irlande, mais en Angleterre aussi, beaucoup de grossesses de filles très jeunes, beaucoup de tabous encore. Parfois, c'est même étonnant. Moi, on se dit la nouvelle génération a beaucoup changé, mais on entend plein d'histoires de gens où c'est pire encore qu'il y a 20 ans. C'est dommage.
D'autres idées ?
Je sais pas si ça marche, oui. Non, parce que ça me fait penser à ce sujet d'éduquer les de plus en plus jeunes, etc. En même temps, le côté médical, aller voir les médecins et tout, je trouve que ça peut être aussi un côté assez négatif, parce que ça peut être quelque chose qu'on prend sans comprendre. Enfin, par exemple, moi, j'ai pris la pilule quasiment dès le début de ma vie sexuelle, et on m'a jamais expliqué qu'il y avait d'autres choses. Et enfin, je pense que ça a plus abîmé les choses. Enfin, voilà, bon... avec tous les effets négatifs qu'on connaît. Enfin, j'ai pas eu d'effets secondaires, mais juste le côté où ça m'a plus coupé la libido qu'autre chose. Et au final, j'ai dû attendre d'arrêter de la prendre pour peut-être découvrir ce que c'était vraiment, parce que je l'ai pris vraiment au début, quoi. Et du coup, je sais pas si le côté médical est pas des fois un peu... peut avoir un côté plus négatif, quoi.
Il faudrait que les médecins soient formés.
Voilà, en fait, c'est ça qui me fait peur avec le côté gynéco. Il y en a pas beaucoup.
Ouais, ils étaient très donner la pilule à tout le monde. Et symboliquement, c'est aussi s'assurer que les femmes... enfin, que les hommes n'auront pas de conséquences si ils couchent sans capote avec des femmes. Mmh. Enfin, il y a aussi ce côté-là où, du coup, peu importe les conséquences sur les femmes, quoi. Et je pense qu'on est une génération aussi... Enfin, on n'a pas tous le même âge, mais moi, ma génération, tout le monde a pris la pilule... On nous a gavé de pilules jusqu'au jour où on s'est rendu compte, où on a appris en fait tous les effets secondaires et plein de gens se sont dit mais oui, mais moi j'avais ça, je savais pas que c'était à cause de la pilule. Il y a même eu des dépressions, enfin il y a eu des trucs et le fait que ce soit acceptable, toutes ces souffrances des femmes, c'est quand même très très choquant. Ouais.
Sans explication toujours à chaque fois. C'est genre prends ça et puis voilà quoi. Au revoir.
Et c'est pour ça, moi, je pense que c'est vraiment un travail de spécialiste en fait. Enfin, tu vois, en dehors de médecin, en dehors de prof, en dehors de. Enfin, c'est vraiment un job de spécialiste parce que c'est une expertise. Enfin, c'est mine de rien tout ce qui est sexologie, tout ce qui est safe sex, tout ce qui est. Et de la même manière que tu réponds pas à toutes les questions, Alicia, dans ta boutique, parce qu'il y a des moments où c'est plus ta compétence et du coup tu donnes une carte. Ben en fait, il y a des gens qui sont spécialisés sur la question. Et après, la question c'est comment tu fais rencontrer. Ces personnes qui s'y connaissent, qui sont expertes, qui sont etc. avec des gens qui ont besoin de ces connaissances-là, parce que sinon il y a énormément de mises en danger. Mais il y avait une question. Ouais.
Moi j'ai juste, pardon, j'ai mis une demi-heure à réagir, mais je reviens sur votre première question sur l'éducation sexuelle à l'école, c'est le temps que ça remonte. Et moi je me souviens qu'on m'avait donné une banane avec une tentative du coup d'enfiler un préservatif sur une banane. Ouais. Je comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi on nous fait faire ça. Déjà parce que déjà quand t'es un mec et que t'essayes d'enfiler un préservatif sur une banane, c'est très très loin quand même de ton organe sexuel à toi. Du coup, je pense que c'est très difficile de se projeter dans je vais arriver un jour à mettre une capote. Et en tant que femme, la même, en fait, c'est un peu. Donc, bref, est-ce qu'on pourrait avoir juste une représentation réelle et réaliste des organes génitaux? Et déjà, on déconstruit pas mal de choses en juste. Osant amener quelque chose qui ressemble à un pénis pour essayer de mettre un préservatif dessus, même s'il y a plein de formes qui existent, on le sait, mais juste quelque chose qui ressemble à peu près, mieux qu'une banane. Et en fait, pour moi, au-delà de ça n'appartient ni à l'école ni aux parents, en fait, ça appartient à tout le monde. Et du coup, plutôt que d'attribuer ce rôle à une seule entité, en fait, le rendre ouvert sur toutes les sphères. Et se dire qu'à l'école, moi, j'ai jamais été hyper à l'aise avec l'infirmière ou l'infirmier, mais du coup d'ouvrir un espace, j'en sais rien, quelque part, quelqu'un qui soit là quelques fois par semaine, qui vienne faire des interventions, mais qui ait aussi des permanences pour accueillir les personnes, que du coup on donne aussi d'autres endroits, d'autres lieux. Bah t'es pas à l'aise de venir là, mais en fait tu peux trouver facilement l'information sur où est-ce qu'on pourrait te conseiller, où est-ce que tu pourrais aller trouver la réponse en fait que tu cherches, quoi.
Le planning
familial, mais en fait... Je pense qu'on peut interroger, là, on arrête des gamines dans la rue, combien, en fait, déjà sont au courant, parce qu'on a toutes et tous, je pense, entendu parler du planning familial, de là à savoir ce que le planning familial fait. C'est une autre question. De là à savoir, est-ce que je peux l'appeler, est-ce que je vais oser l'appeler, déconstruire un petit peu tout ça et donner même d'autres... Il y a d'autres assos, il y a plein d'autres structures qui existent un peu de partout en France. Simplement, l'information, c'est ce qui permet l'émancipation, donc juste informer.
Je suis en train d'imaginer le prof de bio qui va acheter une banane. Parce que c'est le jour de...
Il a mangé des bananes pendant une semaine.
C'est ça. Mais oui, quand tu parles de représentation réaliste, c'est comme le clitoris, ça fait 2 ans et demi qu'on sait à quoi ça ressemble.
Moi, je savais pas qu'il y avait 2 trous. Depuis vraiment très tard. Jusqu'à très tard. Je savais pas qu'on faisait pipi, ça venait d'ailleurs. C'était une révélation, comme le tampon. C'est incroyable. Et à la boutique, on fait avec, du coup, Cello, les cours d'anatomie. Mais juste l'anatomie. Et il y a toujours beaucoup de monde. Et on juste... Ça, c'est le périnée, ça, c'est l'anus, ça, c'est le vagin, la vulve... on fait les cours d'anatomie et tout le monde apprend des choses chaque fois, systématiquement, ce qu'on ne connaît pas. même, enfin, c'est voilà. Donc, c'est déjà de commencer par l'anatomie, c'est...
Ouais, l'anatomie, déjà, c'est pas mal. Ouais.
Moi, je suis en couple depuis assez longtemps avec un homme et j'ai eu très longtemps l'impression que c'était moi qui portais l'éducation sexuelle et la prévention sexuelle dans le couple dès le début, alors que j'étais plus jeune que lui. Et c'est avec lui que j'ai fait ma première fois, etc. Et en fait, alors oui, il a sorti la capote, mais après coup, il n'était pas du tout proactif sur ces questions. C'est moi qui l'ai envoyé faire les tests d'urine, etc., pour voir s'il n'avait pas de MST. Enfin, moi, vraiment, je débarquais, mais c'était automatique chez moi. Et je pense que si on impliquait un peu plus les garçons, au moins d'aller chez l'urologue une fois par an, comme nous, on va chez la gynéco tôt, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait fonctionner, quoi. Enfin, on aurait plus de dialogue et je pense qu'ils comprendraient plus les enjeux. Enfin, on serait moins à être là à dire « Non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Tu te rends pas compte. C'est moi que ça implique. » Enfin, voilà. Je pense que déjà, ça, ce serait pas mal.
À la boutique, je pense que dans tous les ateliers, ça fait un an, depuis Covid est fini, on recommence les cours d'éducation. Il y a deux hommes cisgenres qui sont venus. Deux.
Et t'as eu combien de femmes cis?
Je sais pas.
Beaucoup.
Des dizaines?
Une centaine.
Ouais. 2%.
Ouais, en plus. Et même ce soir, on voit. Je pense que c'est ça qui est. C'est catastrophique dans notre culture. Ils se responsabilisent pas du tout.
Et à l'inverse, dans ta clientèle, t'en as beaucoup?
Oui. Donc ils sont au courant, ils sont.
Il n'y a pas d'excuse,
ils viennent. Ils disent, est-ce que vous voulez vous inscrire sur la newsletter? Oui, ok. Donc, mais après, deuxième étape, c'est jamais fait. Donc.
Ouais, déjà ils ont l'adresse quoi.
Ils savent d'où, ils savent où chercher.
Alors du coup, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques avant qu'on termine? N'hésitez pas, hein, vraiment. D'autres suggestions d'éducation sexuelle du futur. On pourrait envoyer un kit aux ados.
Ouais. Ouais.
Mais ou même, enfin, tu vois, sur quand on part du principe qu'aujourd'hui le vecteur d'info numéro un c'est du porno, mais en fait il y a d'autres pornos qui existent. Enfin, tu sais, il y a des pornos du coup très éthiques féministes où en fait t'as plein de représentations de corps qui existent. T'as des personnes poilues, pas poilues, il y a pas du tout, on sort complètement des codes de ce qu'on connaît sur des plateformes très mainstream, quoi. Et en fait, ne serait-ce que ça, après en général ça coûte cher parce que du coup c'est des vrais films qu'on finance par abonnement, etc. Donc à la fois tu comprends pourquoi et à la fois il y a un souci d'accessibilité. Mais du coup, juste même sur. Sans pour dire que le porno est un problème, en fait, il y en a plein d'autres qui existent et qui en soi sont des facteurs d'éducation ou d'ouverture d'esprit, en fait, sur ces questions-là, quoi. Et qui te montrent que tout est possible. Enfin...
Je pense que si on avait une éducation sexuelle correcte, même les pornos les plus fous, dégueulasses, etc., ça ne sera pas un problème.
Oui.
Parce qu'il y aura un balance. Le problème, oui. C'est que.
Quand tu penses qu'il y a plus ça.
Oui, voilà, on arrive à 12 ans à regarder sexe. Comme. Sexe sur le site et
double pénétration.
Et voilà, donc direct, un truc que tu comprends absolument rien. Donc, ouais, c'est. Ouais.
Donc, plus d'éducation à tous les niveaux, tout le temps, tout au long de la vie.
Yes.
Ouais.
Et pay for your porn. Paye ton porno, ça c'est.
Ouais, paye ton porno.
Paye ton porno, ouais. Financer les féministes.
Trop bien. Bah, merci beaucoup, merci Alicia, ouais. Déjà d'être venue parmi nous. Merci au public. C'était une première, hein. Enfin, c'est un format qu'on n'avait jamais fait. Ah, il y avait une question.
Il y avait une question en plus.
Vas-y.
Bonsoir, merci beaucoup, hein. C'était super intéressant. C'était pour rajouter aussi que, quelque chose qui pourrait être aussi partagé plus avec l'éducation sexuelle, c'est aussi d'autres représentations, par exemple dans des films ou des séries, parce qu'au final, il n'y a pas longtemps, j'ai revu avec des amis le film 120 battements par minute qui parle de ACT UP, l'association qui défend la prévention contre le sida, etc. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était, enfin, en le revoyant une deuxième fois, c'était un film qui vraiment creusait la question, prenait le temps d'aller dans le détail, de remontrer des scènes, d'avoir une réflexion pendant le film. Et c'est vrai que souvent, on n'a pas tant de repères. Et j'ai vu plein de gens aussi autour de moi mal à l'aise de voir toutes ces scènes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, on ne voit pas souvent... Enfin, bien sûr, si on cherche aujourd'hui, on trouve des films. Mais je veux dire, ce n'est pas forcément facile à trouver. Et ça pourrait être plus partagé à l'école ou donner des exemples comme ça à des élèves de belles histoires ou d'histoires un peu différentes de ce qu'ils voient dans les schémas classiques. Et voilà, je pense que des fois, de pas passer ça en mode scolaire éducation, mais qu'ils voient ça à travers des films ou des séries qui peuvent les inspirer, où il y a des histoires différentes, où ils peuvent s'y retrouver, ça pourrait être une piste aussi. Voilà.
Merci à tous d'être venus, vraiment. Merci à l'Éco Nature de nous recevoir. Merci à Culo d'avoir fait cet épisode en collaboration. Allez les suivre sur Instagram.
On est sur Instagram en newsletter, sous Culo Créative. Et Culo comme du culot, c'est U-L-O-T. Et puis voilà. Donc ça c'est. Merci beaucoup à Elsa de Yes qui nous accueille ce soir et avec qui on co-organise. Donc c'est trop bien. Et merci surtout à Alicia.
Merci à vous.
En plus, relever le défi d'être notre seule intervenante ce soir, donc en vrai, elle mérite de
grands applaudissements.
Merci. Donc, Yes, c'est le podcast des victoires des femmes contre le sexisme. Donc, Yes avec 3S, vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les applis de podcast. Donc ça c'est un épisode hors série qu'on va essayer de refaire plusieurs fois, notamment avec Zina qui est là-bas, qui est aussi co-animatrice de Yes, et Marguerite qui est pas là ce soir, mais on fera sûrement d'autres épisodes comme ça, donc on vous tiendra informés bien sûr. Et voilà, en tout cas, merci à tous d'être venus et à bientôt, j'espère.
Et puis merci beaucoup pour toutes vos interventions.
Ouais, c'était hyper intéressant. Super intéressant.
Et en plus, c'est un sujet pas évident, donc un grand merci pour la confiance et le partage.
Merci. Bon, à tout.